Il est 7h20, Pasquale ramène sa science. Bonjour Pasquale.
Bonjour Charlotte.
On a enfin trouvé le chaînon manquant pour expliquer la disparition des dinosaures. Et pour ça, vous nous emmenez au Mexique, je crois.
Oui, effectivement, les scientifiques et les géologues surtout s'intéressent à un cratère qui s'appelle Chicxulub, j'espère bien prononcer, qui se trouve dans le golfe du Mexique, dans la péninsule du Yucatan. Et pourquoi ils s'intéressent à ce cratère? Eh bien parce que la datation de ce cratère remonte, on le date grâce aux mesures isotopiques et à la radioactivité, remonte il y a 66 millions d'années, à la fin du Crétacé. Et cette 66 millions d'années, c'est en fait le moment de la fameuse cinquième extinction des espèces sur Terre. Plus de 75% des animaux disparaissent à cette époque-là, à ce moment-là, y compris les fameux dinosaures. Et il ne reste que les oiseaux et d'autres plantes qui survivent, et puis il va y avoir repopulation, évidemment, de la Terre.
Alors, l'hypothèse principale, c'était une météorite, c'est ça?
Exactement. Hein, l'idée de base, enfin, il y avait plusieurs idées. Il pouvait tomber malade, un virus, une bactérie, que sais-je, destruction, déforestation. Mais l'idée la plus vraisemblable était l'impact d'un astéroïde gigantesque qui allait provoquer ce qu'on appelle un hiver provoqué par la poussière. Je veux dire que quand il y a explosion et fracassement de cet astéroïde sur la Terre, il y a libération dans l'atmosphère d'une quantité de poussière gigantesque qui va occulter le Soleil et qui va donc provoquer un hiver rapidement. Et donc, si les animaux ne sont pas adaptés, ou en tout cas ceux qui n'étaient pas adaptés à vivre dans ce genre de conditions, disparaissent. Et effectivement, c'est ce qui a été publié dans Science Advance en février 2021, dans la rubrique géologie. Une équipe de 18 chercheurs, mais dirigée par un Belge, Steven Goderis, de la vraie Université de Brussels.
Ah, donc cocorico quand même.
Absolument, c'est le premier auteur de cet article. Il a d'ailleurs fait sa thèse en 2011, justement sur l'étude des astéroïdes. C'est un géologue, donc il s'intéresse à la constitution des cailloux, en quelque sorte. Et là, il a participé, avec les 18 autres, à une expédition importante qui consiste à aller faire des forages. Parce que pour pouvoir mesurer et connaître la quantité de cailloux et de morceaux et d'éléments chimiques, il faut malheureusement forer dans le sol, puisque tous ces objets, après 66 millions d'années, sont couverts évidemment de sédiments, de couches de terre.
Donc là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que cet impact, enfin ce cratère, c'était peut-être celui de la météorite qui a touché la Terre. On essayait de prouver ça?
Oui, c'est ça. Et donc, on sait que le cratère fait à peu près 200 km de diamètre. Hein. C'est comme un Bruxelles-Arlon, hein, on imagine la taille. Hein, et qu'il a atteint une profondeur de plusieurs kilomètres. Qu'on estime que l'énergie libérée correspond à peu près une centaine de milliards de fois la bombe d'Hiroshima. Hein, c'est quand même pas mal. Mais il fallait vérifier, effectivement, si c'était bien une météorite et pas autre chose. Et donc, ce qu'a fait Steven Goderis, c'est qu'il a été mesurer l'iridium. L'iridium est un élément du tableau de Mendeleïev, mais qui est particulièrement pauvre sur Terre et très riche dans les astéroïdes. Et donc, ils ont foré jusqu'à à peu près 1300 mètres sous le niveau de la mer pour aller retirer les carottes géologiques et mesurer les quantités des différents isotopes, et entre autres le fameux iridium. Et la publication donc, qui est sortie en février montre bien qu'il y a là un pic d'iridium à cette époque-là, 66 millions, dans ce cratère, parce qu'on retrouve évidemment cet iridium partout sur Terre, à la même époque, donc toujours dans les couches qui correspondent à moins 66 millions d'années.
Donc à la fois, ça prouverait qu'il y a bien eu un astéroïde qui s'est écrasé, mais aussi de la poussière partout.
Exactement, parce qu'il y a eu une deuxième publication concomitante, mais celle-là, elle, dans le PNAS, le Proceedings of National Academy of Science, aussi de géologues qui, eux, ont étudié la libération de carbone, c'est-à-dire l'explosion a forcément libéré dans l'atmosphère une quantité impressionnante de carbone et aussi de sulfate, donc de soufre, donc ça peut être relativement dangereux. Et ils ont pu calculer que ça correspond à quelques millions de kilos de carbone. Et ils ont pu mesurer un certain type d'éléments chimiques qu'on appelle des hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont spécifiques lorsque le charbon brûle en quelque sorte. Mais la vitesse à laquelle il brûle va libérer certains éléments précis. Et donc ils ont pu montrer que ces carbones-là qu'on retrouve aussi donc à moins 66 millions correspondent en fait à des incendies extrêmement rapides et pas de la combustion lente comme on pourrait avoir un petit feu de forêt classique. Dès qu'on a une combustion extrêmement rapide, eh bien le carbone va former des hydrocarbures spécifiques que l'on peut mesurer. Et donc ces deux publications vont dans le même sens. Il y a 66 millions d'années, il y a bien eu un astéroïde gigantesque qui a frappé la plaine du Yucatan, donc le golfe du Mexique, qu'effectivement, il y a une libération gigantesque de poussière qui a provoqué ce fameux hiver par obscurcissement du ciel, en faisant l'obstacle donc aux rayons du soleil, et que, évidemment, certains animaux qui n'étaient pas adaptés à ce genre de situation, eh bien, ont disparu. Et donc, ça doit, sans aucun doute, enfin, sans aucun doute, c'est toujours des scientifiques, donc il y a toujours un esprit critique quand même, mais ça va vraiment dans la direction que la fameuse cinquième extinction de plus de 75% des êtres vivants sur Terre est bien liée à l'impact d'un astéroïde sur la Terre.
Et tout ça grâce à un Belge.
Et tout ça grâce à un Belge de la VUB.
Ah, oh, c'est génial. Merci Pascal Nardone.
Je vous en prie.
Vous aviez d'autres choses à nous pointer sur cette étude ou...
Non, c'est-à-dire qu'il y avait une troisième étude qui est un peu plus différente, qui est plutôt anthropologique, qui consiste à montrer pourquoi dans les dinosaures, il y avait une certaine limite de taille. C'est-à-dire qu'on a des dinosaures qui vont jusqu'à 4000 kilos, hein, 4 tonnes,
ouais.
Hein, et comme le Tyrannosaure Rex, le fameux grand carnivore, et qui est un mélange de carnivores et d'herbivores, mais que le fait que les petits bébés dinosaures qui naissaient quand même vers 150 kilos avaient une niche écologique spécifique qui a interdit aux grands carnassiers de se développer. Et donc là, c'est plutôt une étude de type écologie et niche écologique en fonction de la taille et du poids des différents dinosaures de l'époque.
Ok, donc grosse actu sur les dinosaures.
Absolument.